Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, en compagnie d'Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et de Fanny De Citre, de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune à Nevers, membre du réseau des librairies indépendantes initiales. Vous êtes bien sur Bac FM et nous sommes en studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Claire.
Bonjour Fanny.
Bonjour Claire.
Alors, il est un peu tard pour se souhaiter la bonne année, mais il paraît qu'on peut le dire jusqu'au dernier jour de janvier. Alors, on va se souhaiter une année riche en lecture et en belles découvertes livresques. Comme d'habitude, deux parties dans cette émission. Une première partie de conseils de lecture et en deuxième partie, une interview de notre invité du mois, Luvane, autrice hors des sentiers battus du roman Agrafa, publié aux éditions La Volte. Alors ça, c'est l'une de mes premières découvertes de l'année. Mais auparavant, je me tourne vers Arthur, qui a déjà fait lui aussi des découvertes assez inattendues, un peu dystopiques, un peu vampiriques.
Bon, avant de commencer, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année. Hein.
Il faut y croire.
Bon, en tout cas, en ce début d'année, j'ai sélectionné des romans qui vous feront passer un moment mémorable. Au programme « La cour des ténèbres » de Victor Dixen, une histoire extrêmement originale où Louis XIV a été transmuté en vampire. Et je vous parlerai ensuite de « Itoile » de Delphine Pessin, une dystopie qui interroge sur les limites de la technologie.
Déjà, Louis XIV en vampire,
oui,
ça donne
original.
Le temps. Hein. Oui.
Alors, imaginez un seul instant que notre présent soit tout autre. Que Louis XIV règne encore sur la France, que ce soit un vampire. Imaginez que, en l'an 1715, ou l'an 1 de l'ère vampirique, des médecins aient trouvé le moyen de faire revivre les morts en les transmutant en vampires. Des êtres immortels, terriblement cruels et tout-puissants.
1715, c'est l'année officielle de la mort de
c'est
Louis
ça,
XIV.
Exactement.
Mais en fait, il n'est pas mort.
Exactement. Et du coup, dans ce monde, il y a quatre ordres, les vampires, les docteurs, les obereaux et les roturiers, qui sont aussi appelés le quart état.
Le quart état,
oui.
À la place du tiers état.
Exactement.
En fait. Ah, d'accord.
Voilà, il y a de l'imagination.
Oui, oui, oui.
Un monde gouverné par des vampires cruels et assoiffés de sang. Victor Dixen nous plonge en l'an 299 de cette ère dans un décor glaçant. Toute la famille de Jeanne est assassinée et, pour sauver sa peau, la jeune fille va tuer un noble et tenter de pénétrer à la cour du roi.
Disons, ça... il y a beaucoup de sang en effet, il faut,
oui.
Faut aimer l'hémoglobine.
C'est... Bah justement,
non,
à la cour du roi, il y a des trahisons, des complots, des meurtres et des apprentissages très étranges et des vampires très vicieux.
D'accord. Bah, en fait, voilà. Finalement, c'est à peu près comme à la vraie cour de Louis
oui.
XIV, mais avec,
mais avec du sang. Oui, exactement. Alors, du coup, personne n'y est à l'abri et surtout pas Jeanne qui s'y installe sous une fausse identité. Son nouveau but, venger sa famille en tuant Louis XIV. Mais cela risque d'être extrêmement compliqué et dangereux. Et elle va devoir ruser pour atteindre son objectif presque insurmontable.
Donc une histoire bien... Alors peut-être pas à lire tout à fait avant d'aller se coucher, je sais pas.
Si.
Si, ça va. On fait de beaux rêves après.
Oui. Moi, c'est un énorme coup de cœur en tout cas, pour plusieurs raisons. Alors d'abord pour son originalité incroyable, parce que c'est pas commun de voir un ancien rat de France transmuté en vampire.
Non, je pense que c'est une première.
Oui. Et on peut applaudir Victor Dixen pour ça. Il fait toujours des romans extrêmement originaux où il dénonce des aspects de la société. Alors là, je pense que c'est les régimes autoritaires.
Bah oui, de toute façon, c'était un roi.
C'est tout puissant, quoi.
Royaume absolu. Mmh. Oui, tout à fait.
Et aussi, le génie de l'auteur réside dans le suspense qui est horriblement angoissant et on dévore les 500 pages à une vitesse folle comme un vampire vide sa victime de son sang.
Ouf, je vois que ça a donné des idées.
Oui.
Alors, l'ado accro au livre est aussi un peu accro au sang. Donc, tout va bien.
Alors du coup, maintenant j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains parce que... Wow. Et ça va être dur de patienter jusqu'en juin.
Ah bah il va falloir tenir le coup.
Ensuite, on part avec Itoile et nous voyageons cette fois-ci quelques années dans le futur et pas au 18e siècle.
Alors juste un tout petit détail, pour que les auditeurs comprennent, c'est Itoile mais écrit
E.toile.
Voilà.
Alors imaginez-vous cette fois-ci dans un futur relativement proche. Un futur effrayant et saisissant par son réalisme. Un futur qui pourrait parfaitement être le nôtre. Dans ce futur-là, la population est totalement sous contrôle. Surveillée par des caméras, contrôlée par des policiers robots, Un monde où chaque parcelle de notre vie, ou presque, est décidée par une force supérieure.
Ouf, ça fait envie, là, tout de suite. Hein.
C'est un monde assez angoissant, en fait. Hein.
Oui.
Et il n'y a plus de liberté, du tout. Mm-hmm. Du coup, c'est un régime autoritaire qui fait froid dans le dos, et tout ça à cause de la technologie.
Ah oui, donc la technologie est présentée dans ce roman comme quelque chose de plutôt... Enfin, d'utiliser néfaste. De manière négative. Mm-hmm.
Du coup, nous suivons Stella, qui est une jeune mannequin, et sa vie bascule le jour où sa mère la trahit. Nous suivons également Annalise, qui est sur le point d'être reconduite au foyer alors qu'elle donnerait sa vie pour ne pas y retourner. Enfin, nous suivons Niklas, qui est sur le point de se faire tabasser au centre de détention.
Ouf ! Oui ?
Alors, les trois sont dans des situations très délicates à ce moment-là, mais soudain, une proposition leur est faite par une mystérieuse personne, Oz. Accepter d'offrir leur vie privée à un jeu de télé-réalité pendant un mois pour ne plus jamais vivre dans la misère.
Oui,
ils acceptent, évidemment.
Ça a l'air sympa,
léchant.
Comme ça, on se dit, tiens.
Tout pourrait s'apparenter à un rêve, quoi. Dans le lieu où ils tournent ce jeu télé, il y a des neuropathes hyper connectés, la célébrité en ligne de mire.
Magnifique.
Ça ne ferait pas rêver.
Magnifique. Oui.
Et si le mystérieux Oz avait d'autres projets en tête en les faisant participer à ce projet ? Du coup, c'est une dystopie incroyablement bien écrite qui amène à de nombreux sujets de réflexion. Dépendons-nous de la technologie ? Avons-nous assez de liberté ? Ou au contraire pas assez ? Le progrès technologique est-il dangereux ? Je vous préviens, vous risquez de passer des nuits blanches à dévorer ce roman car il est impossible de s'arrêter pendant sa lecture. Et c'est aussi le genre de roman stressant où l'on se dit à chaque fois « Mais non, il ne pourra pas leur arriver quelque chose de pire !» Et pourtant, si.
Voilà. C'est le principe, oui, effectivement.
Oui.
Plus ça va, plus
ça monte en angoisse, oui. En horribilité. Bref, une grosse pépite ce roman à découvrir de toute urgence.
Eh bien, merci beaucoup Arthur pour ces suggestions angoissantes, pour ces idées de nuit blanche. Justement, c'est très bon pour les insomniaques, mais pour les autres aussi. Ça fait réfléchir aussi.
Les deux font très réfléchir sur les régimes autoritaires.
Oui, c'est vrai que ce sont des questions on ne peut plus d'actualité.
Exactement, oui.
donc ça fait du bien d'y penser et de se demander quelles sont les solutions, les dérives aussi, et les solutions proposées par les auteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations qui paraissent aussi fermées, aussi bouclées.
Oui.
Ça, finalement, ça a l'air angoissant, mais c'est quand même positif.
Bah oui.
Donc ça nous donne l'énergie.
C'est angoissant pendant tout le roman,
Sauf à la fin. Donc ça va, on respire, on souffle.
Mm-hmm.
Alors moi, j'invite tous les auditeurs à aller consulter tes comptes Facebook et Instagram, donc l'ado accro au livre, sur lesquels ils trouveront d'autres suggestions dans tous les genres. Hein. Tu lis à peu près...
Oui, tous les young adult, tous les genres.
Du plaisir à venir en lecture. Donc si vous ne savez pas quoi lire cette année, allez sur le compte de l'ado accro au livre, vous trouverez.
Surtout que j'ai publié au milieu du mois de janvier mon bilan lecture de 2020, mon top 10 absolu. Donc vous trouverez obligatoirement quelque chose là-dedans.
Eh bien, merci beaucoup, Arthur.
Avec plaisir, Claire.
Alors, changement total de décor, Fanny, puisque nous allons parler de désir non partagé, de jalousie et de puritanisme avec Philippe Roth, mais aussi, d'espionnage.
Oui.
Donc, allons-y.
Alors, je vais commencer donc avec déjà une petite explication, parce que j'ai choisi deux livres que je peux pas vraiment mettre en opposition, mais qui, pour moi, aborde deux facettes, parmi tant d'autres, de ce que la littérature peut nous apporter. Ou en tout cas, moi, deux types de lectures qui vont m'attirer assez naturellement.
Et qui sont très différents l'un de l'autre.
Oui, enfin, qui peuvent se rejoindre quelque part, mais on a dans un premier temps des lectures qui vont nous procurer un plaisir immédiat, qui vont nous ouvrir sur d'autres mondes, qui sont un peu des fenêtres sur d'autres époques, d'autres vies. Et puis, dans un deuxième temps, des lectures qui vont nous marquer durablement, où dès les premières pages, on va sentir qu'on a quelque chose entre les mains qui va rester, qu'on va savourer, parce qu'on sent qu'on a quelque chose qui nous marque énormément.
Parce qu'il y a de la profondeur. On va pas être dans le suspense.
Oui,
Va se passer.
On n'a pas
à la page
envie
suivante.
De le dévorer forcément. On a envie de le savourer vraiment.
De manière de manger son livre.
Exactement. Et donc, le premier livre que je vous présente, c'est « La bête qui meurt » de Philippe Roth. Et c'est un peu compliqué pour moi de vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre à ce point-là, mais c'est peut-être parce qu'il fait preuve d'une honnêteté que je trouve déconcertante. En fait, La bête qui meurt, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un professeur d'université qui a une soixantaine d'années, qui s'appelle David Kepesh. Et il a une petite notoriété dans le milieu culturel new-yorkais. Il fait des chroniques à la radio, il passe un peu à la télé. Et ça lui donne une certaine prestance et un certain pouvoir auprès de ses étudiantes. Mm-hmm. Il y a une espèce de harem comme ça autour de lui. Souvent, ses étudiantes deviennent ses amantes. Il y a un espèce de petit jeu comme ça de pouvoir et d'attraction. Et puis un jour, arrive dans un de ses cours une fille d'immigrée cubaine qui s'appelle Consuela et qui est une femme de 24 ans qui est absolument magnifique. Il va la comparer très vite à une œuvre d'art. Il va y avoir un petit manège entre eux de séduction. Et inévitablement, ils vont devenir amants. Ils vont se lancer dans une espèce de passion charnelle dévorante. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire-là, c'est qu'on va sortir des clichés du professeur qui sort avec ses étudiantes, parce que cet homme va littéralement s'écrouler devant cette femme qui exerce sur lui un pouvoir énorme. Et je trouve que le jeu se renverse, parce que c'est lui qui va commencer d'éprouver de la jalousie. C'est lui qui va devenir extrêmement mal s'il ne la voit pas. Et peut-être parce que cette femme possède tout ce que lui n'a plus, un avenir, enfin la jeunesse, voilà.
Et puis il y a aussi une question du désir.
Voilà, c'est un livre qui est quand même.
Il n'éprouve pas forcément de la même manière que lui.
Non, alors je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je pense qu'elle a, il y a une espèce d'érotisme entre ces deux personnages, mais qui est pas du tout sur le même plan en effet. Ça va pas être le même désir. Elle, ça va être un désir qui est provoqué par la culture de cet homme, par tout ce qu'il va lui apporter au niveau musical, au niveau de l'art, de la littérature. Et puis au-delà de ça, c'est aussi une réflexion de cet homme sur le déclin, c'est une réflexion sur sa vieillesse. Et le titre, c'est « La bête qui meurt ». Alors, je ne dévoile rien, mais on a en effet la mort qui va rôder autour de ces deux personnages. Je n'en dis pas plus.
Alors, je voudrais juste vérifier, c'est bien le même personnage que Professeur de désir.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une trilogie. Et là, c'est le dernier, c'est la fin du cycle de cette trilogie-là. Moi, c'est le seul livre, et en tout cas le premier livre que j'ai lu de Philip Ross. Et c'est certainement pas le dernier. Mais tout ça pour dire que c'est pas dérangeant de commencer par celui-là. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir manqué quelque chose.
Donc, un livre sur le désir, mais pas forcément comme on s'y attend.
Non. Encore une fois, je le répète, je trouve ça brillant de netteté. C'est un portrait sans détour de cet homme qui ne cache rien, qui dit tout.
On va au-delà des clichés habituels sur le genre. Et donc, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est beaucoup plus profond, en fait.
Oui, bien sûr. Parce que là, c'est vrai qu'en le résumant, c'est très... c'est des sujets rabattus et... Et éculé, mais c'est bien plus que ça.
Donc, attestez, chers auditeurs, le désir, la décrépitude, toutes ces questions.
C'est assez troublant, hein, comme
on doit se poser un jour.
On en sort un petit peu chamboulé. Et puis, donc, pour le deuxième livre, on part complètement
dans un autre univers. C'est l'autre versant de la manière de dévorer ce livre.
Voilà, c'est ça. avec un roman d'espionnage. On est toujours aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est un livre qui est d'une auteure allemande. Alors, mon allemand est pitoyable, je ne sais même pas comment prononcer son nom. Je pense que c'est Ulla Lenze.
Je pense que c'est Lenze.
Très bien.
Je pense.
Donc, Ulla Lenze.
En allemand, c'est pas terrible non plus.
Avec le livre Les trois vies de Joseph Klein, qui vient de sortir là, tout récemment, il y a quelques semaines.
Une nouveauté donc.
Une nouveauté aux éditions Lattès. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph Klein, qui part aux États-Unis dans les années 20 pour partir dans ce pays qui est plein de promesses, une terre d'accueil pour refaire sa vie, et puis qui va trouver des petits boulots, qui va devenir imprimeur là-bas, et qui a une vie très tranquille.
Il faut se méfier des gens qui ont une vie très tranquille.
Et par son métier d'imprimeur, il va commencer de rencontrer beaucoup de personnes, parce qu'il imprime des tracts pour différents partis. Donc, évidemment, il rencontre tout type de gens. Et puis, il va se faire approcher par des Allemands. Et là, on est dans les années 39. Enfin, on est vraiment à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.
Les années où il se passe plein de choses.
Voilà. On sent une espèce de tension qui est assez intéressante. Et il se fait approcher donc par des Allemands parce que lui, il a une passion qui est la radio amateur. Il est très, très fort dans ce domaine-là. Et ces Allemands lui proposent d'utiliser ses services contre rémunération pour qu'il envoie des messages à leur place à l'Allemagne. Donc lui ne sait rien de plus, il accepte, un peu naïvement.
Oui,
et puis il se retrouve emmené dans une spirale dont il ne peut plus sortir parce qu'il va se rendre compte, mais longtemps après, qu'il est en train en fait, de collaborer avec l'Allemagne, qu'il est rentré dans le monde de l'espionnage et du renseignement. Sans s'en rendre compte, mais vraiment naïvement, parce que c'est un personnage qui est très intéressant, qui est quelqu'un de taiseux, qui est quelqu'un de très discret, qui ne veut pas se faire remarquer et qui a accepté ça. Parce qu'il est gentil
voilà,
et qu'il voulait rendre service.
Il rend service aux gens, il ne réalise pas du tout les conséquences de ses actes.
Exactement, et il va voir du coup son destin lui échapper complètement parce que...
Mais là, ça glisse, oui, complètement dans le roman. Hein.
Ouais, complètement. Et ce que j'ai trouvé aussi très très intéressant dans ce livre-là, qui est évidemment haletant, on a envie de savoir ce qui va lui arriver à ce Joseph Klein. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est beaucoup dans les années, donc en 1939, et qu'on a le point de vue des États-Unis sur ce qui est en train de se passer en Allemagne. C'est un point de vue que moi, j'ai pas souvent vu.
Oui, bien sûr, on a souvent le point de vue européen
voilà.
ou français, ouais. mais rarement, enfin
et,
plus rarement.
Et là, du coup, on a une Amérique qui est aussi divisée, qui est pour l'intervention en Allemagne, qui est contre l'intervention
oui.
en Allemagne,
ça
qui soutient ou non
oui.
Hitler. C'est passionnant, on apprend vraiment plein de choses. Et c'est un livre voilà, qu'on a un plaisir à lire et à découvrir.
Donc ça se lit de manière haletante, ça se dévore vraiment, ou est-ce que de temps en temps...
Alors ça se...
On ne se pose pas pour réfléchir un petit peu.
En fait, c'est assez intéressant de la manière dont c'est construit. On a plusieurs temporalités. On va passer des années 20 quand il arrive aux États-Unis, puis en 39 quand il se fait approcher par les Allemands, puis à la période d'après-guerre. Et tout ça se mélange. Donc on a un peu toutes les histoires, c'est pour ça que ça s'appelle « Les trois vies de Joseph Klein ». Et ça rend, il y a un rythme, du coup, où on ne s'ennuie jamais. Mais c'est pas non plus un roman d'aventure où il se passe mille choses à chaque page. C'est la découverte, en fait, de la vie de cet homme à cette période-là.
Oui, donc c'est vraiment un roman qui nous propose de poser un regard un peu neuf sur cette période
ouais,
de l'histoire.
Que moi, en tout cas, j'ai trouvé neuf. Après, c'est peut-être abordé dans d'autres livres, mais que moi, je connaissais pas encore ce point de vue-là.
Donc, on ne perd pas son temps, on apprend et en même temps, on dévore.
Exactement. Et donc, c'est très, très bien écrit, très, très bien traduit, en tout cas, donc ça ne gâche rien.
Et ça, c'est très important aussi, ouais. parce que la traduction peut parfois gêner la lecture, mais là, c'est...
Non, là, pas du tout, c'est très fluide.
On a l'impression que c'est écrit directement en français, tellement c'est bien traduit.
Tout à fait.
Eh bien, deux choix totalement différents, donc hein, c'est bien.
Comme oui, ça
change. Les auditeurs peuvent choisir ce qui leur fera plaisir pour débuter l'année, soit de commencer tambour battant, soit de manière un petit peu plus réflexive, voire presque métaphysique. La décrépitude, on est au bord de la métaphysique. Donc, des choix jeunesse et adulte de la dystopie, de l'espionnage. Quoi de meilleur pour commencer l'année? Et nous allons donc découvrir en deuxième partie d'émission le roman de Luvan, qui est à sa manière un pas de côté aussi dans le réel, mais d'une façon poétique et profonde qui, je pense, nous surprendra un peu. Alors d'ailleurs, pour nous préparer à ce saut dans l'inconnu, je vous propose d'écouter son premier choix musical. C'est une surprise. On écoute.
C'était X, extrait de l'album Song for an Unborn Son par Sister Grotto sur le label Terrible Pleasures que nous venons d'écouter. Vous êtes bien sur Bac FM dans la deuxième partie de l'émission Les Voix du Livre et nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Luvan par téléphone. Bonjour Luvan.
Bonjour Claire, bonjour Bac FM.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré des conditions techniques pas évidentes. Alors Luvan, vous êtes écrivaine, auteure de romans dont Susto, paru aux éditions La Volte, de nouvelles. On peut citer notamment les recueils Crus ou Few of Us qui a reçu le prix Bob Moran. Mais vous créez aussi des performances littéraires, des fictions radiophoniques. Enfin, ce bref survol de vos réalisations laisse deviner les nombreux moyens que vous utilisez pour créer, transmettre et faire connaître vos univers. Vous vous présentez comme polyphonique et polyglotte aussi, puisque vous êtes traductrice d'anglais, vous parlez allemand, suédois notamment, et vous avez vécu dans plusieurs pays, la Suède, la Belgique, l'Allemagne, mais aussi Djibouti ou la Chine. On sent à vous lire un réel plaisir stylistique et linguistique à jouer avec les voix et les modes d'expression différents. Je pense en particulier à votre dernier roman « Agrafa », paru aux éditions La Volte en septembre et qui en est une incarnation surprenante et déroutante, stimulante également. Alors pour les lecteurs qui ne le connaissent pas, brièvement, vous racontez dans ce roman l'histoire d'une chercheuse qui travaille sur une communauté médiévale de femmes aux langues diverses. Et cette chercheuse se passionne tellement pour leur mode de vie et leur imaginaire qu'elle finit par les rejoindre. Alors je reste volontairement dans le flou pour ne pas en dire trop sur ce roman inclassable. Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est un roman poétique? Est-ce que c'est un roman fantastique? Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman hybride et inclassable?
Alors au début, il n'était pas censé être spécialement hybride et inclassable. Je me suis laissée porter par le sujet. J'imagine que j'essayais d'aller au plus près de ce que je souhaitais faire voir et entendre de l'univers. Et l'idée de l'univers, en fait, c'est l'origin story est un petit peu longue parce que j'avais depuis assez longtemps en fait envie d'écrire sur une communauté de femmes au Moyen-Âge. Mmh. Et là, j'arrive pas du tout à faire l'historique de cette envie. J'imagine qu'elle s'est posée là par couche, par agrégat, à cause de lecture, de l'envie d'explorer un motif qui visuellement et narrativement m'intéressait. Et parce que les communautés de femmes, finalement, elles-mêmes, on peut écrites, alors que c'est un topos de la littérature, enfin, énormément, et du cinéma. Beaucoup d'hommes, surtout, ont parlé des communautés de femmes avec un regard un peu exotique et un petit peu aliénant des deux côtés, en fait. Parce que ces hommes, souvent, se sont aliénés eux-mêmes de ces communautés et leur point de vue a aliéné un petit peu les communautés. Enfin, j'avais envie de poser un regard de femme sur une communauté de femmes depuis assez longtemps. Au Moyen-Âge, je sais pas bien, j'ai étudié le Moyen-Âge, en fait. C'était le sujet de ma maîtrise d'histoire. Enfin, le sujet, oui. C'est-à-dire que non, le Moyen-Âge, ce Moyen-Âge-là est le sujet de mon roman, mais est-ce que c'était le sujet de ma maîtrise? Je crois pas. En tout cas, elle se situait dans ce Moyen-Âge. Et je me souviens très bien, à un moment, on parlait avec Léo Henry de nos projets, et c'est au moment où Léo Henry, qui est également publié à La Volte, avait l'idée d'écrire, enfin, une idée... très très incarné déjà puisqu'il avait reçu une bourse du CNM pour écrire une biographie en tout cas c'est comme ça qu'il présentait le projet à ce moment-là de Hildegard de Bingen. Mm-hmm. Et puis quand il m'a dit ça j'étais un petit peu en colère, je lui ai dit mais c'est pas possible, on a toujours les mêmes idées, tu vas écrire sur Hildegard de Bingen, c'était mon idée et je voulais écrire sur les visions, enfin je voulais écrire autour des visions, c'était très très voilà, c'était un petit peu confus à ce moment-là. Et puis, voilà, et il a décidé de me laisser les volcans parce qu'il n'avait pas d'intérêt pour le volcan, donc du coup, il y a eu Susto.
Vous répartissez le sujet.
Ben oui, après, ce serait bien, pourquoi pas. Hein, mais, ça arrive quand même que deux films sur, je sais pas, les liaisons dangereuses, les deux films sont sortis la même année de deux studios différents, donc why not? Oui. Ça peut être ça, c'est une bonne idée, Claire. Je peut-être une fois écrire sur le même sujet et publier la même année.
Surtout que je suis certaine que le résultat serait totalement différent.
Ouais, ça c'est clair. Mais du coup, voilà, j'en étais là et puis j'étais pas allée spécialement plus loin. Et puis c'est à un moment une amie qui travaillait pour un network américain m'a dit c'était en plein milieu du en plein boom en pleine grâce de cette série Game of Thrones. Et elle m'a dit ce serait bien de proposer une je serais intéressée par une vision plus européenne du Moyen-Âge, parce que bon, il y a eu Thierry Lafonde, qu'est-ce que serait une série européenne médiévale. Et puis ça a commencé à turbiner dans mon cerveau et je me suis mise à écrire carrément une bible en fait de séries européennes sous le Moyen-Âge. Et j'avais envie de prendre complètement le contre-pied en fait de ce que proposait Martine dans Game of Thrones, parce que bon, c'est pas par gadget, juste par envie de creuser aussi moi ce que j'aimais dans le Moyen-Âge, enfin ce qui m'intéressait, je sais pas si c'est on peut parler d'amour, mais ce que j'avais envie de creuser là. Et puis du coup, de fil en aiguille, cette bible, j'avais envie de m'intéresser plutôt au Moyen-Âge avant l'an 1000, parce que voilà, je savais, j'avais des connaissances très vagues, enfin comme une étudiante en maîtrise qui a un peu étudié le Moyen-Âge, mais j'étais pas allée vraiment profondément dans cette période-là. Et puis je m'étais dit, oh, tiens, ça peut être un peu sympa et marketing, parce que les peurs de l'an 1000, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, cette idée a fait son chemin. Et bon, il y a eu plein de raisons pratiques pour lesquelles elle a fait son chemin seul, hors de l'idée d'une Bible. Et je me suis débarrassée de cette idée de Bible un petit peu contrainte et forcée, et c'était tant mieux. En fait, en gros, quand on m'a dit non, c'est super intéressant, mais le public français n'est pas assez cultivé, je sais pas, enfin, ce genre de refus très poli qu'on a de boîte de prod. Mais je suis allée quand même jusqu'à avoir un entretien chez Lagardère avec un monsieur très intéressé par les récits historiques qui a conclu que ce serait impossible dans le paysage télévisuel français. Mais bon, j'ai parlé 2 heures avec lui. Le café de Lagardère est pas très bon. Mais voilà. Et en tout cas, j'étais hyper soulagée quand il m'a dit ça se fera pas. Vous pourriez en faire un roman. Merci. Bonne idée. Et du coup, j'étais hyper soulagée parce que je vois vraiment pas comment j'aurais pu. Le principe des séries, c'est quand même qu'on est plusieurs à écrire et qu'il y a beaucoup de prismes et d'intermédiaires. Et je crois qu'avec l'endroit où j'en étais de la conception de cette histoire, je crois que j'aurais pas supporté en fait de pas en être complètement maîtresse jusqu'au bout. Bon, entre temps j'ai écrit Sousto parce que j'ai eu une bourse donc, pour écrire Sousto. Et puis je me suis beaucoup documentée et le sujet par contre s'est affiné parce que je me suis aperçue que non, effectivement, enfin ça c'était très vite dans la documentation, il n'y a pas eu de port de l'an 1000, d'ailleurs le compute n'était pas super bien fait, enfin la chronologie n'était pas très, on ne savait pas exactement en quelle année après la naissance du Christ on se trouvait, enfin c'était pas fixé, et du coup ça faisait pas sens, et les millénaristes sont arrivés bien après, et c'était pas vraiment le sujet, c'était plutôt une époque assez sympa d'ailleurs où il y avait un redoux, les conquêtes, enfin les pillages des différents des pirates vikings étaient en train de se terminer, en tout cas sur le territoire français. Enfin, en tout cas, tout le côté marketing, on pouvait l'oublier, quoi.
Oui, donc c'était pas du tout le Moyen-Âge à la Martine dans Game of Thrones, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'on se demandait où était le trône de fer, quoi. Oui. Mais il n'était pas là. Il y avait, tiens, où est le pouvoir, où est le pouvoir, des gens essayaient de le prendre, mais je ne sais pas si c'était vraiment le récit principal de cette époque, quoi. D'ailleurs, je ne suis pas convaincue que ce soit le récit principal de cette époque, c'est juste un récit. Mais c'est une façon de... Je pense que même dans les époques très très tourmentées, où le Japon des samouraïs, est-ce que c'était vraiment tellement ça le vrai récit à raconter? En tout cas, ce n'est pas celui qui m'intéresse, ça c'est sûr.
Et donc, est-ce que, à la suite de toutes ces couches, de ce travail, de ce retravail, de cette prise de recul et ce retour au cœur du sujet, est-ce que c'est aussi de là que vient le choix de ce titre qui peut paraître un peu énigmatique et pas forcément en lien, pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet, avec l'histoire ?
Le titre, il est arrivé, en fait, au cours de l'écriture. Au début, le projet s'appelait M. Et en fait, M, c'est le titre d'absolument tout. et c'est une biographie de Mussolini, un documentaire sur l'abus sexuel dans les écoles talmudiques, un documentaire sur le porno en Allemagne. Enfin, je me suis aperçue que M, en fait, c'était à peu près tout.
Oui, ça a l'air assez vaste, en effet.
Oui, et puis ça me plaisait plus. Et puis, en plus, c'était complètement contredit par le fait qu'on savait pas, que les gens de cette époque ne savaient pas qu'ils étaient en l'an 1000. Enfin, je sais même pas si on peut parler de savoir, parce que c'est pas quel conscience, enfin, quelle leçon on peut tirer du fait qu'on est dans une année ou une autre. En tout cas, il y avait pas, c'était pas un sujet, quoi, pour eux.
Oui.
Donc du coup, ça avait plus de sens. Et du coup, c'est arrivé après à Graffa. En fait, je savais qu'il fallait que je change de, qu'il fallait que je change de titre. Hein, et c'est arrivé assez tard dans l'écriture de du roman. En fait, c'est un petit peu par hasard parce que dans, je souhaitais dans le roman, donc il y a une partie du roman qui s'appelle Florilegium et qui est en fait une un recensement ou un, ben, un florilège des œuvres qui se partageaient le plus à l'époque. Mm-hmm. Et donc c'était des textes, des véritables textes en fait, que parfois j'ai un petit peu retraduit du latin, parfois je les ai féminisés volontairement, donc je les ai un peu transformés, et puis tout, en fait toutes les phrases qui sont introduites par « il est écrit que », dans la première partie du livre, en tout cas, il s'agit de textes réels. Et parmi ces textes que j'ai consultés, parmi les textes qui s'échangeaient beaucoup, il y avait les évangiles apocryphes, en fait, celle de le pseudo, comme on appelle le pseudo Matthieu, par exemple, c'était un des, ou l'évangile de Marc, qu'est-ce que je raconte, Marc, Marc c'est un normal, c'est un officiel, lui il porte le label officiel évangile, mais en tout cas les évangiles apocryphes étaient très très, avaient beaucoup de succès, et elles n'étaient pas appelées apocryphes à l'époque bien sûr, elles ont été, ça, il a été décidé plus tard qu'elles étaient apocryphes, et en fait c'était des évangiles très avec beaucoup de magie, beaucoup de mystère, c'était vraiment des évangiles de... un peu hermétique.
Oui, comme l'évangile de Thomas,
par vraiment
exemple,
de la magie, il y avait des, oui. Le temps s'arrêtait, des montagnes s'élevaient, c'était très très magique et très très proche du conte ou du mythe. C'était très beau, je comprends que ça avait beaucoup de succès. C'était de la fantaisie, quoi.
De la fantaisie avant l'heure.
Et du coup, parmi ces apocryphes, en fait, j'ai découvert ce terme parce que les apocryphes font souvent, enfin, référence à quelque chose d'encore plus apocryphe que l'apocryphe, qui était les agraphas, c'est-à-dire cette matière, tout ce que Jésus avait dit et qui n'avait pas été noté, donc dont il n'y avait aucune trace écrite. Donc ça voulait dire à la fois c'était plus proche de la pensée de Jésus de Nazareth et mm-hmm. c'était à la fois plus, enfin c'est un petit peu la même matière des contes quand on dit ça c'est absolument vrai par exemple, ou il y avait un côté un peu magique du fait que ça a été écrit nulle part mais vous devez me croire sur parole, c'est exactement ce que Jésus a dit, donc il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission orale que je trouvais hyper belle, et puis ça voulait dire que ces écrits ça voulait pas forcément dire d'ailleurs pardon qu'ils n'avaient pas été écrits, mais ça, dans certains cas c'était ça a peut-être été écrit certainement mais on a perdu cette trace, et en fait je me suis aperçue que, outre que les sonorités étaient super belles, et qu'il y avait un côté un petit peu abracadabra, quoi, un côté très magique, c'est normal, c'est du vrai. Grec, c'est utilisé dans les formules magiques depuis très longtemps, l'hébreu, le grec, ces langues qui sont très étonnantes pour nos oreilles à nous. Et du coup, j'aimais bien, et puis ça, je me suis aperçue que ça collait complètement à la façon dont se déployait l'histoire. Donc c'est arrivé comme ça. Et j'ai proposé à Mathias, j'ai dit à Graffa, qu'est-ce que t'en penses comme titre ? Il a dit, ouais, c'est trop bien. Et du coup, je me suis dit, ouais, voilà, je peux tester.
Mathias, qui est votre éditeur, je précise.
Oui, Mathias
Schnell,
le fondateur et l'éditeur de La Volte.
Eh bien, nous allons réjouir encore nos oreilles différemment en faisant une petite pause musicale avec un autre morceau que vous avez choisi. Ce deuxième morceau, donc, Delta, 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 sur l'album YDI, le label Plint Records, qu'on écoute maintenant.
Vous êtes bien sur Bac FM. Nous sommes toujours en compagnie de Luvan, l'auteur d'Agrafa, publié aux éditions La Volte. Et nous venons d'écouter Delta, Delta, Delta. Alors, Luvan, pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Ce morceau, en fait, vient d'un groupe qui s'appelle Wadey Eye. Et j'en parle dans Agrafa. En fait, je parle d'un des musiciens, compositeur de ce groupe, qui se nomme lui-même, je crois, qui se catégorise lui-même techno-préhistorique, je crois.
Ah oui.
Néolithechno. Et en fait, je parle de Thomas Giry dans Agrafa. Voilà. Et je dis que lui qui adore danser, chanter, faire de la musique torse nu, à un moment du récit, il aurait adoré être là. Oui. Et il y a quelque chose de très trans, enfin, dans la musique qu'ils font. Pas forcément écouter, donc là j'ai choisi un morceau plus calme, mais ils utilisent des percussions, ils improvisent sur des instruments bricolés, parfois à partir de matières naturelles, du bois ou de la pierre. Donc ils se situent à un endroit primitif que j'ai voulu traiter aussi dans le livre, en fait. Et dans Agrafa, il y a eu plusieurs scènes de transe liées à de la danse, ou de danse liée à la transe. De danse spirituelle qui était assez courante au Moyen-Âge, on a complètement oublié moi je connaissais pas du tout cette tradition des tripodia et des corala qui sont une véritable tradition de, c'était une façon de vivre en communion, en communauté, la foi chrétienne qui a perduré assez longtemps en fait. Et les gens dansaient, donc moi j'imaginais très bien la musique de Wadey Eye sur les danses, sur les tripodia médiévales.
Oui, donc une musique à écouter aussi en parallèle à la lecture du roman. Alors justement, dans votre roman, vous utilisez une langue syncrétique. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Une langue qui s'inspire des genres du latin, par exemple, pour parler des arbres, qui sont souvent des noms féminins, des mots empruntés à différentes langues, à l'allemand, enfin ce qui allait devenir l'allemand. Pour quelles raisons utiliser une langue syncrétique et pourquoi avoir choisi de la recréer, et surtout comment fait-on pour recréer une langue syncrétique ?
Ça c'est aussi lié en fait à mes documentations, parce que j'ai assez tôt puisque à cette époque sur le territoire qu'on appelle maintenant la France coexistaient beaucoup de nations différentes, on appelait ça des nations, nationes. Donc il y avait des nations germaniques, des nations gallo-romaines, donc qui étaient issues déjà du mélange préalable entre les latins et les celtes, donc les gaulois présents sur le territoire. Il y avait les celtes, il y a deux générations de réfugiés celtes qui étaient plutôt sur la péninsule bretonne. Donc il y avait une première vague de réfugiés au IVe siècle lorsque il y avait des guerres endémiques opposant les Saxons et aux Celtes, et donc un certain nombre de Celtes sont arrivés en Bretagne, ce qui s'appelle la Bretagne maintenant. Et puis au moment où je raconte mon histoire, il y a une seconde vague de réfugiés Celtes des îles britanniques qui là se sont réfugiés sur le continent. Ils se sont, enfin, pour se prémunir des guerres entre les Vikings et les Celtes ou les Saxons plus loin. Donc il y avait cette population-là, il y avait les nations germaniques, il y en avait plusieurs. Il y avait les Visigoths dans le sud, il y avait les Burgondes, plus à l'endroit où maintenant il y a la Bourgogne, donc près de chez vous.
Oui, tout à fait.
Et il y avait également les Francs, dont on sait très peu de choses. Et en fait, ces nations-là avaient leur propre droit, donc il y avait un droit qui s'appliquait à chaque nation, c'est-à-dire qu'un individu faisait partie d'une nation et d'un territoire. Donc il y avait un droit qui était en fait le droit commun des personnes partageant ce territoire, mais il y avait des exceptions, il y avait un droit particulier qui s'imposait à cette personne selon que cette personne était burgonde ou franque ou visigothe. Ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, ça c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup rendre compte dans l'histoire, parce que je suis un petit peu... Oh non, comment dire ça c'est de façon diplomatique.
On peut utiliser de façon pas diplomatique aussi.
Oui, je peux ne pas être diplomate du tout. Disons que l'idée qu'il y ait des Français de souche me met hors de moi. Parce qu'il y a des souches de rien du tout. Enfin, il y a peut-être des souches, mais alors il y en a tellement qu'on ne peut plus parler de souches. Et puis une souche, en plus, c'est complètement mort. Ça veut dire que c'est quelque chose de... Je ne sais pas, de couper. Enfin bon, cette expression me dérange beaucoup. Et puis dès qu'on fait de l'histoire, on s'aperçoit que c'est absurde parce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est pas comme si, je sais pas, Dieu était, ou des extraterrestres étaient venus créer un français de souche et une française de souche et que, du coup, ça avait fait une branche et que, voilà, c'est tellement absurde. Et l'histoire du Moyen-Âge, voilà, prouve qu'on cohabitait sur les mêmes territoires et que ce qui comptait, et ce qui compte pour moi beaucoup de nos jours aussi, c'est la cohabitation sur un territoire. Et un territoire, pour moi, est fait des gens qui habitent dedans et pas... ça, c'est aussi temporairement que ces gens passent... Bref.
Donc cette langue syncrétique, c'était aussi une manière de montrer cette cohabitation, de montrer cet aspect mélangé à la fois des cultures, des nations, des gens et du caractère temporaire aussi de la langue.
Parfois, ben oui, c'est, en fait, il y avait plusieurs choses. Donc du coup, moi, ce qui m'a interpellé, je me suis dit, mais comment ils faisaient pour communiquer tous ces gens? Parce que bon, moi, j'habite en Allemagne maintenant et il y a encore plein de choses que j'arrive pas à comprendre parce que j'ai pas encore un niveau... assez correct de langue. Donc comment ces gens cohabitaient, parce qu'ils avaient des langues maternelles différentes et pourtant ils étaient sur les mêmes territoires, surtout autour de l'an 1000 où il y avait un grand élan de... On recolonisait tous les territoires qui avaient été abandonnés pour fuir les invasions vikings ou hongroises d'ailleurs. Mm-hmm. Donc plus de votre côté, c'était plus les Hongrois qui venaient à cette époque-là d'ailleurs. Voilà. Et du coup, en fait, ces gens, ils travaillaient ensemble, ils allaient investir un village ou un territoire, ils allaient créer un village ensemble. Donc, comment ils parlaient? Et du coup, j'ai pas trouvé grand-chose parce que je suis pas linguiste. Et dès qu'on arrive, en plus, là, quand on est historienne ou n'importe quoi d'autre, et qu'on arrive sur des thèses de linguistique qu'on n'en a pas fait, on comprend rien du tout, en fait, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Intraduisible, en fait, c'est des... Et du coup, je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller sur une page de linguistique sur Wikipédia, c'est impossible, il faut cliquer sur tous les mots pour savoir ce que ça veut dire et qui font référence à d'autres mots qu'on ne comprend pas. Enfin, ça a l'air fabuleux, la linguistique, mais c'est inaccessible aux personnes qui n'ont pas le vocabulaire prérequis.
Oui, c'est un univers en soi. Et justement, vous êtes plutôt dans le concret, l'univers concret. Quel mot on va utiliser, quel genre va porter ce
mot. Comment je vais faire en sorte que les gens... comment j'arrive à montrer... Enfin, comment les gens communiquaient. Et en fait, il y a un linguiste, mais qui est écrit pour qu'on se serve de cette science-là, qui s'appelle Bagnard. Et que, en fait, c'est sur ces thèses que je me suis basée. Et lui disait qu'en fait, les gens étaient... Certes, il y avait des parlers ultra locaux, donc ça se mélangeait, puis au bout de quelques années, il y avait un parler ultra local, et ça on le voit encore de nos jours, enfin, des parlers très locaux, une utilisation de la langue française très locale. Et puis les personnes qui voyageaient beaucoup entre les espaces locaux avaient développé que chacun s'écoutait, qu'à l'époque on s'écoutait beaucoup, qu'il y avait un plurilinguisme. Et ça m'a rappelé ce que disait une amie slovaque qui disait qu'elle... elle comprenait complètement le tchèque et les tchèques, elle a mon âge, hein, donc autour de 45 ans, et les tchèques de son entourage comprenaient très bien le slovaque, mais les personnes plus jeunes, d'une vingtaine d'années, pas du tout. Alors que c'est des langues hyper proches, mais en fait, vu que les pays se sont scindés, en fait, les plus jeunes, à 20 ans près, 20-30 ans près, ont perdu l'agilité de comprendre leurs voisins, alors que auparavant, c'était normal, en fait, voilà.
Oui, alors il faut savoir aussi que dans votre roman, tout ce que vous êtes en train de nous expliquer est présenté de manière très concrète, c'est-à-dire que nous avons affaire à différents types de textes, des textes écrits, des textes qui rapportent des paroles orales, des textes qui rapportent aussi le travail de la chercheuse, donc avec également aussi ce qu'elle écrit avec des ratures. Donc on a affaire à un matériau textuel très, très varié, et que tout ce dont vous parlez, qui pourrait peut-être paraître un peu abstrait et linguistique, justement, peut-être un petit peu trop éloigné, en réalité, on est plongé dedans de manière
très très concrète. On voit vraiment la manière dont les gens parlent, dont ils se comprennent, les mots qu'ils utilisent, la manière aussi dont la chercheuse étudie ces textes, les comprend, les traduit, parce qu'en fait la chercheuse traduit les textes. Donc on a vraiment affaire à une immersion dans cet univers, et c'est une expérience en tant que lecteur, c'est une expérience à tenter, ça c'est sûr. Alors justement, vous êtes également traductrice. Est-ce que votre travail de traductrice joue un rôle dans votre manière d'appréhender l'écriture, et en particulier l'écriture de ce roman?
Oui, je pense que ça a certainement joué. Parce qu'effectivement, quand on traduit, il faut que ce soit très fluide. C'est-à-dire que l'idée de traduire depuis l'anglais jusqu'au français ou depuis le suédois jusqu'au français, c'est que ça parle directement à la lectrice ou au lecteur, dont la langue maternelle est le français, mais sans rien enlever de l'exotisme non plus et de l'étrangeté de la langue et de la civilisation dont provient le récit. Et c'est ce que j'essaie de faire en tant que traductrice, de pas tourner les choses, parce que en fait la chose la plus simple qui ne serait pas traduire, enfin que peut-être certains traducteurs et certaines traductrices exercent, peut-être pour la traduction technique par exemple. Pour la traduction technique, le but c'est que ce soit très clair pour la personne réceptrice. Mm-hmm. Mais en littérature, et donc ça peut se faire au dépens de l'originalité et de l'essence de la langue source. Mais en littérature, je trouve que c'est l'inverse, en fait. C'est quand on lit une bonne traduction d'un roman japonais, j'ai d'avoir la sensation d'être quand même confrontée à un exotisme, enfin, pas un exotisme, à l'étrangeté ou à l'altérité. Mmh. Et c'est ça que je me suis dit, que ce serait intéressant de créer un document qui, original pour le coup, parce que c'est pas une véritable traduction, mmh. Qui ait cette valeur-là, qui est ce goût-là.
Qui fasse éprouver ce sentiment d'étrangeté tout en étant compréhensible.
Oui, et c'est ça que j'ai voulu faire. Et puis au-delà de ça, c'est ce qui me bloque. En fait, c'était... j'aime beaucoup les romans historiques, mais j'ai voulu proposer une expérience immersive qui m'a toujours échappé lorsque j'ai lu des romans historiques. Donc j'ai voulu prolonger mon expérience ou radicaliser l'expérience du récit historique, en essayant d'éliminer au maximum la modernité de l'écrivaine, donc de ma modernité. Et c'est pour ça que je suis allée chercher ce langage-là, en fait. C'est pas que de la psychologie, c'est-à-dire que souvent on lit un roman historique, puis on se dit, Sinoué l'Égyptien, c'est clairement un Finlandais d'après-guerre, quoi. Et c'est pas grave, et tout le décorum, et c'est très chouette, enfin, ou Salambo, c'est chouette. C'est Salambo, on est plus dans une toile de Gustave Moreau que... Enfin, c'est inévitable, et je pense qu'avec Agrafa, on va se dire que c'est une femme du 21e siècle, mais à la fois, j'avais envie d'essayer de dépasser de ça et de proposer autre chose, proposer un voyage dans le temps, et c'est quelque chose que lorsqu'on étudie des manuscrits historiques, on a plus. Et du coup, je me suis dit, ça serait chouette que j'arrive à provoquer ce sentiment que moi, en tant qu'étudiante, j'ai eu, et que en tant qu'écrivaine, je suis en train d'avoir en étudiant des sources. Ce serait chouette que ce sentiment-là, c'est presque une émotion, en fait, qui revient un peu à l'émotion quand on visite une ruine, par exemple. J'aimerais bien provoquer cette émotion-là chez la lectrice ou le lecteur. Et ça me permettait aussi d'être plus dans mon sujet, d'être plus proche, en fait, de mon sujet. Et effectivement, comme vous l'avez déjà un peu spolié sans le spolier, il y a eu un moment, en fait, où j'ai eu besoin d'être encore plus proche, et j'ai résolu ça par le récit.
C'est une expérience à vivre, parce qu'il n'y a pas que la langue, il y a aussi toute la symbolique, tout un réseau d'éléments qui montrent comment on peut rentrer dans la psyché, en fait, de ces personnes qui vivent donc en communauté, que ce soit donc les femmes qui sont les héroïnes ou aussi toutes les personnes qui les côtoient. Et nous allons maintenant écouter un extrait d'Agrafa, musicalisé et lu par l'autrice.
Elle marche, Sigrid, arrive nue dessous, mantelée de givre dessus. Arrive par-dessous les arbres penchés, noirs dessus, comme la glu goûtant de l'aulne. L'aulne aime l'eau. Plantée dans le noir des tourbières, l'aulne s'abreuve à la source que collecte la chaîne. Sigrid sera l'aulne, évolutionna la chaîne. Ce n'est pas écrit,
agrafe.
Mais c'est ainsi. Sigrid arrive à la source en marchant. Lumière crachée de l'ombre, à la fois cœur sombre du tournesol et son auréole d'or. Sigrid marche pendant des mois depuis le campement des Northmanon, ses pères, jusqu'à la source lustrale. Se nourrit d'algues et de coquilles, arrive la nuit. Sa peau sent le sel tant elle s'est baignée dans la mer. Des grains blancs miroitent la toison jaune de ses bras, comme l'ours tardive au poil de laquelle cliquettent les glaces de novembre. Sigrid arrive une nuit que l'Eremita médite aux étoiles, et Sigrid pareillement lui pour s'extraire du noir de chemin. Et c'est ainsi qu'elle apparaît. Et Volusiana décide, cette nuit-là, comme on raconte. Que le sombre n'existe pas. Car il est écrit, vos ténèbres seront comme le soleil de midi. Et cette promesse se réalise ici.
C'était un extrait de la Gesta Sigridis, raconté par Aya à la page 31 d'Agrafa, qui raconte donc l'arrivée de Sigrid. Nous allons revenir un petit peu dans l'actualité, puisque vous avez également une actualité littéraire très riche. Vous allez publier Tyst, alors je ne sais pas si je le prononce comme il faut, c'est un mot suédois, je crois, qui signifie « silence ». Il s'agit d'un roman de fantasy poétique. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi nous pouvons nous attendre en l'ouvrant ? À une étrangeté semblable à celle d'Agrafa ou à quelque chose de totalement différent ?
Oui, alors Tyst, en fait, personne le prononce. Enfin, c'est très compliqué de le prononcer correctement parce que le Y en suédois, les Suédoises et les Suédois le prononcent. C'est un son entre le U et le I. Et alors quand j'habitais en Suède, voilà, je réussissais à le faire complètement par hasard une fois sur 10, je crois, sans parvenir à reproduire ce son trop étrange. Et j'ai une amie qui a vécu toute sa vie en Suède et elle a, dont ses enfants sont adultes et sont suédois puisqu'elle les a, ils ont grandi là et leur père est suédois. Et ses enfants continuent à se moquer de mon ami et à lui demander de dire « Tiens, maman, dis jambon !» Et elle dit jambon en suédois et tout le monde rit parce qu'elle n'arrive pas à prononcer le Y correctement.
Oui, je
Donc,
vois.
C'est
un défi.
Je n'arrive pas, voilà, on va dire que c'est juste. Et ça signifie en fait chute plus que silence. Ouais, qu'est-ce que ça c'est très différent. En fait, j'ai failli ne pas publier ce roman parce qu'en réalité, pour la petite histoire, enfin, c'est un roman que j'ai écrit pour aller mieux. C'est-à-dire que j'ai eu le en France on dit la Covid-19 l'an dernier, quasiment exactement un an. Et en fait, pour moi, la convalescence a été très très longue et je supportais pas l'écran et j'avais envie d'aller mieux parce que c'était très très dur comme convalescence. Et du coup, j'ai fait ce que je sais faire pour aller mieux, c'est-à-dire j'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire une histoire dans laquelle j'ai mis tout ce qui me permettait d'aller mieux. Donc il y a des animaux qui parlent, il y a une romance, c'est au bord de l'eau, ça se passe en Bretagne, il y a des brumes. Au début c'était vraiment thérapeutique et puis je pensais que j'allais juste écrire pour aller mieux, puis finalement je suis allée jusqu'au bout de ce roman, c'est devenu vraiment un roman avec... Alors, je l'ai terminé. Il est court, mais je l'ai terminé. Mm-hmm. Et puis je l'ai fait lire parce que pour les gens qui étaient un peu dans ma vie à ce moment-là, tout le monde m'a demandé à lire cet exercice thérapeutique. Mm-hmm. Et puis toutes les personnes à qui je l'ai fait lire ont complètement adoré et m'ont dit que c'était hyper thérapeutique pour elles aussi et qu'il fallait absolument que je le publie, que ça ferait du bien aux gens, tout ça. Du coup, c'est une sorte, c'est pas tant un roman qu'une sorte de sortilège pour aller mieux.
Rien que ça. Ah, ça donne envie.
Et puis c'était très, c'est ce que les Américains appellent l'escapisme. Je suis vraiment clairement allée dans la fantasy pour aller loin, quoi, et pour me décrocher du réel. Donc ça aussi, c'est très thérapeutique ou un peu régressif. J'ai commencé à écrire avec tous les CD que j'écoutais quand j'étais gamine ou ado. Donc il y avait Enya, Lorena McKennitt, Allen Stivell. Enfin, c'était très. Le but, franchement, c'était très très l'écriture très facile, très différente de Agrafa. Agrafa, c'était très douloureux, très compliqué, très laborieux, dur. Et Tust, je l'ai vraiment écrit comme une ado qui aurait, alors une fausse ado qui aurait une grande expérience d'écriture, quoi, parce que c'était hyper fluide. Mm-hmm. Et voilà, je l'ai écrit en exactement 40 jours.
Ouf, 40 jours.
C'est un roman de quarantaine.
Oui, c'est ça.
et voilà, et en fait, du coup, je l'ai fait lire, et il paraît, alors, ça se rapproche, c'est marrant parce que je ne l'avais pas remarqué, mais c'est exactement ce que je lisais quand j'étais ado, effectivement, ça se rapproche des bouquins de High Sorcery, ça se rapproche, moi je pensais, pour moi c'était une sorte de, c'est plus proche de Neil Gaiman, mm-hmm. mais en fait, Laurence Jonard, une lectrice, une personne très précieuse qui parle régulièrement dans la salle 101, oui. M'a dit que ça lui faisait beaucoup penser à Tanis Lee. Et effectivement, mm-hmm. c'est clairement... donc c'est de la haute sorcellerie, il y a une sorte de... C'est très... Il y a beaucoup de merveilleux. Et dans un sens, j'ai... Donc c'est très différent. Et ça sera vraiment de la fantasy. C'est un hommage à ce qui me faisait du bien, je pense, quand j'étais plus jeune. Et puis c'est vraiment de la fantasy des années 90, j'ai envie de dire, sauf pas vraiment. Donc le personnage principal ça pourrait être un personnage de fantasy en transition vers quelque chose ou en train de se découvrir. C'est de l'ordre du récit initiatique, mais le personnage a officiellement sur le papier 70 ans. Mm-hmm. Ça réinvente, c'est sur le récit, c'est sur la façon. En fait, la magie repose sur le langage et sur le lieu et le lien entre langage et lieu. Et c'est une magie très obscure. Ça sera accompagné d'un jeu de rôle, d'une playlist, et on pourra jouer au jeu de rôle. Le livre servira de base pour jouer au jeu de rôle. Donc c'est très et a priori il y aura une postface, si elle le veut toujours bien, de Laurence sur les parentés avec la haute sorcellerie et tout ce courant de fantasy. Donc c'est vraiment un hommage au genre. Est-ce que c'est poétique? C'est beaucoup moins expérimental que... Enfin, expérimental. J'utilise cet adjectif parce que... Plus en termes de contenu auquel on peut s'attendre que comme démarche. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'accès, je crois. Enfin, c'est-à-dire, dans le sens où c'est beaucoup plus familier. C'est pas facile d'accès. C'est beaucoup plus familier avec d'autres choses qu'on peut lire. Donc
on retrouve des références, peut-être plus facilement.
Ouais, il n'y a pas de référence, et puis on n'est pas obligé de... Parce que tout le monde me dit que les premières... Enfin, ce langage syncrétique que j'élabore, les expériences de lecture qu'on m'a partagées, c'était, en fait, une fois qu'on s'y... C'est comme l'eau en Bretagne, quoi. Une fois qu'on y est, elle est bonne.
D'accord.
Donc, une fois qu'on est dedans, voilà, les premières pages sont un peu déroutantes, mais une fois qu'on est dedans, c'est bon, mais il faut passer le moment déroutant, et je suis persuadée... Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à passer ce moment déroutant qui ne me parle pas, parce que celles qui communiquent avec moi me disent toutes que le moment déroutant est passé très vite, donc je ne sais pas trop.
Et puis ce sont peut-être des personnes qui aiment aussi être déroutées. Alors, nous allons terminer donc sur ce moment déroutant. Merci beaucoup, Luvane, d'avoir passé ce moment déroutant peut-être, mais j'espère très stimulant, en tout cas pour nous.
Merci beaucoup, Claire. Merci, BAC FM.
Alors, on peut suivre votre actualité sur votre site, luvane.org, Luvane, L-U-V-A-N. Et je rappelle les titres dont nous avons parlé, Agrafa, publié par les éditions La Volte, et Tist, donc que je prononce à la française, qui sortira très bientôt aux éditions Dystopia et qui fait l'objet d'un financement participatif. Donc n'hésitez pas à consulter les pages de l'éditeur Dystopia pour en savoir un petit peu plus sur ce financement. Et je remercie également Arthur Caillot, l'ado accro au livre, et Fanny De Citre pour leurs chroniques éclairées. Cette émission était réalisée et montée par Laetitia Durieux et conçue et présentée par Claire Garand. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les voies du livre.